Alors moi, je dirais que c'est être aux aguets. C'est-à-dire que d'être tout le temps un petit peu avec en fond sonore de cerveau, on va dire, une petite canne à pêche pour attraper les choses. Enfin, je le dis de manière très simple, mais c'est comme ça que je le visualise. Par exemple, moi, je suis abonnée à des newsletters scientifiques parce que c'est comme ça que je m'inspire. Et ce matin, le titre, c'était « Toutes les rivières mènent à la mer ». C'est un fait, mais j'ai trouvé ça très poétique. Et ça, pour moi, c'est être artiste, c'est tout d'un coup se dire oh, « Mais ça, c'est beau !» et de vouloir tirer quelque chose de ça.
Vous écoutez Cube Rouge, le podcast d'entretien où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maison-Rouge. Je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter? Comment vit-on de son art? Comment parvient-on à exister en tant que créatrice? Attentive à la diversité des formes de vie, Léa Abourdin observe le rapport que nous entretenons aux autres animaux, aux paysages, et convoque des notions de survie, de fracture, de reconstruction, pour composer une autre vie de ce que nous appelons le sauvage. Explorant les champs tels que l'éthologie, la recherche en sciences appliquées ou encore la botanique, elle déploie un travail en dessin et photographie où la place du livre et de l'objet imprimé est cruciale. Sa pratique se veut dessiner d'autres manières d'entrer en résonance avec les mondes. Productrice d'images et cueilleuse, de la même manière qu'on collecte du bois pour faire du feu, Léa Abourdin ramasse des végétaux pour en tirer des images. Elle révèle, au sens photographique et métaphorique du terme, la notion de forêt primaire, laissant la possibilité de raisonner avec l'image personnelle et réconfortante, le fantasme que nous en avons tous.
Alors l'atelier, j'y suis pas souvent, parce que j'enseigne 16 heures par semaine. Et donc, j'essaye d'aménager des jours entiers pour y être. C'est un lieu que je partage avec mon compagnon, qui est lui aussi artiste, qui s'appelle Thibaut Brunier. Et d'ailleurs, quand on arrive à faire une journée entière d'atelier, on se le dit le soir qu'on est content d'avoir fait une journée entière d'atelier. Et généralement, quand on met de côté tout ce qui est répondre à des mails, faire des petites factures ou des choses réjouissantes comme l'URSSAF ou des choses comme ça. Mon processus de travail, il est en fait consigné dans un carnet. C'est-à-dire que comme je ne peux pas y être tout le temps et comme mes pensées vont entre la vie de tous les jours, les trajets pour aller enseigner, la préparation des cours, enfin voilà, tout, la préparation d'une expo, etc., des choses très triviales aussi. Quand j'ai une idée ou un petit quelque chose ou que je trouve quelque chose qui peut être intéressant, je le consigne dans un carnet. Et en fait, le fait de refeuilleter ce carnet me remet dans ce moment où je me suis dit « Tiens ça, oublie pas ça, etc. » Et c'est comme ça que je continue à avancer petit à petit sur une idée.
Ouais, c'est très intéressant. Et alors après, une fois que tu as l'idée, comment tu vas trouver la forme, comment tu vas trouver la mise en forme, en
fait, ouais.
Et le matériau et la façon de l'explorer.
Alors c'est un peu vernaculaire, donc je vais essayer de le décrire. Par exemple, pour les dernières pièces que j'ai faites, ce sont des forêts que j'ai prises en photo et ensuite je les montre sur du tissu et ces tissus sont teints Et c'est un procédé de teinture qui fait qu'on peut voir les images. C'est pas un tirage photo, c'est pas une impression photo. Et en fait, quand je remonte dans mes carnets, c'est d'abord une curiosité pour cette technique de la teinture végétale. Donc il y avait cette idée de travailler autour du végétal et des manières d'en sortir de la couleur, d'en sortir, je trouvais ça très intéressant. Et ça, j'avais fait une formation il y a plus de 5 ans, peut-être 6, où à l'époque j'avais noté ça a l'air intéressant comme technique pour montrer des photos. Et puis après, ben, il faut aussi que ça colle avec une idée, c'est-à-dire qu'une technique intéressante pour montrer des photos, mais montrer n'importe quelle photo avec, ou n'importe quelle image, en tout cas, ben, je trouve ça gratuit. Et donc, c'est resté 5 ans, 6 ans, un petit peu comme ça, dans le tiroir de mes carnets, jusqu'au moment où, en fait, j'ai été invitée en résidence à Villa Glovette, qui est une résidence dans le Vercors. Et c'était en partenariat avec la Halle Centre d'Art, donc il y avait une expo derrière, donc il fallait produire quelque chose de nouveau. Entre ces forêts que des gens me montraient, donc ce sont des lieux que les gens aiment. Et ils m'y emmènent, ils me montrent tel arbre remarquable, tel endroit où on peut cueillir des champignons, voilà, des lieux précieux, où je me suis dit, tiens, c'est très... Il y a un côté domestique qui peut être intéressant avec l'usage du tissu teint. Et c'est comme ça que j'ai monté ça. Puis en fait, le fait d'avoir la résidence, ça m'a permis de mettre en place aussi la technique, puisque c'est très très compliqué. Comme technique, et donc j'ai eu une autre formation, etc. J'arrive à un carrefour, en fait, et il faut l'attendre, le carrefour. Mmh. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chambre à soie de
Virginia Woolf,
voilà, qui parle de comment elle trouve des idées, et c'est comme regarder, se mettre devant une rivière et attendre le poisson, et que si on l'attrape trop fermement, on la perd. Et en même temps, il faut l'attraper quand même. Enfin, il y a quelque chose d'assez beau, parce que c'est vraiment ça que je ressens, et que c'est-à-dire de pas s'accrocher à l'idée et se dire il faut faire absolument quelque chose maintenant, mais la laisser un petit peu voilà, faire son chemin, et en même temps pas l'oublier non plus. Voilà.
Ça nous ramène à ta rivière du début.
Oui, et, oui, c'est vrai.
Et donc moi, finalement, je vais aller plus en amont. Et savoir si dans ta famille, il y avait des éléments qui ont fait que tu as pu devenir artiste, ou est-ce que c'est complètement éloigné de ce que tu as reçu en tant qu'enfant ?
Alors, mes parents ne sont pas artistes, bien que ils sont très curieux et très... Ils ont fait leurs études... Enfin, ma mère a grandi à Paris. Ils ont tous les deux fait leurs études à Paris. Donc, ils connaissent bien Paris, sans vouloir faire de parisianocentrisme. Mais du coup, on y allait assez souvent. Bon, et puis, on voyait des expos. Il y a cette chose, je pense, qui aide aussi. C'est que le lieu d'expo, c'est pas un endroit sacré ou quoi. Enfin, on peut y rentrer, on peut regarder, on peut ressortir. Voilà, il y a quelque chose, je pense... qui est important quand
on... J'étais déjà habituée à ça.
Voilà, moi j'étais habituée, il y avait des lits chez nous. Par exemple, ils avaient un calendrier, comme on fait des fois, avec les peintures de Hopper. Et ils avaient tout découpé et ils avaient tout mis en ligne dans le couloir. Pendant des années, j'ai vu les peintures d'Hopper. Et du coup, je les connais par cœur. Et je me dis, c'est marrant parce qu'en fait, c'était une manière de décorer à eux. Et en même temps, maintenant que j'ai un enfant, je me dis c'est important de vivre avec des œuvres et de les voir souvent, parce qu'elles rentrent dans notre corps, en fait. Enfin, je veux dire, maintenant, il y a une espèce imprégné. Voilà, on est complètement imprégné. Et donc, que si on vit... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'en ai tiré des conclusions, que si on vit avec des murs blancs, on s'imprègne pas d'images. Donc, voilà, je pense qu'il y a eu ça. Et puis aussi, la possibilité de... C'est-à-dire que un jour, quand j'ai dit que je voulais faire des études d'art, il n'y a pas eu de barrage. Mmh. Et ça, je pense que c'est aussi important. Parce que je pense que s'il y avait eu de barrage, J'aurais pas été faire des études d'art. Je pense pas que c'était quelque chose de tellement... à l'époque, je pensais pas que c'était tellement fort, donc je me serais pas battue. Voilà.
Et est-ce que tu te souviens à quel moment tu t'es dit, tiens, je ferais bien des études d'art, ou tiens, je deviendrais bien artiste?
Oui, je m'en souviens bien parce que c'était un choc pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été très pragmatique, dans la lune, tout ça, comme un cliché d'artiste, on peut dire, dans la lune. Mais voilà, j'ai fait des études scientifiques, enfin, j'ai fait un bac scientifique, j'avais de mauvaises notes en L, donc pas du tout le parcours de quelqu'un qu'on pourrait penser voué à des pratiques artistiques. Et je voulais faire du commerce international, donc vraiment pas du tout des études d'art. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pensais que c'était pour les gens qui avaient un don. Et comme moi, je savais pas dessiner, du coup, j'avais estimé que j'avais pas un don. J'avais un moment, quand j'étais petite, je voulais être poétesse, je le disais avec beaucoup d'importance à tout le monde, mais à un moment, je trouvais que c'était quand même compliqué. Un jour, en fait, moi, j'habitais une petite ville, et dans cette petite ville, il y avait la maman d'un ami à moi qui était... qui faisait du papier marbré, mais de manière professionnelle, elle est même assez connue maintenant que je connais le monde de l'édition, et qui avait fait des études d'art, et elle m'a dit, mais en fait, l'art, ça s'apprend. Et cette phrase, en fait, elle a tout changé, parce que je me suis dit, si ça s'apprend, je vais apprendre. Enfin, vraiment, il y a eu vraiment ce truc de, ah, mais en fait, il faut juste apprendre, et je vais apprendre. Et donc, j'ai décidé, et je suis rentrée, je suis rentrée chez moi, et j'ai dit, mes parents, je veux faire des études d'art, et ils sont un peu tombés de leur chaise. Parce que vraiment, entre commerce international et études d'art, ils n'ont pas vu le lien. Mais je pense que c'était vraiment parce que je me l'interdisais avant et que tout d'un coup, ça m'avait ouvert une porte et j'avais dit, allez. Mmh. Et moi, ce que je sais faire, c'est apprendre, donc du coup, c'est bon. Et c'est comme ça que ça a démarré. Mais vraiment, quand je leur ai dit, je vais faire des études d'art, je ne dessinais toujours pas. C'est-à-dire que c'était vraiment, je l'ai décidé avant de le pratiquer. Voilà.
Ah oui, c'est amusant. Et alors ensuite, est-ce que au fil du temps de ta pratique, il y a eu des événements personnels, biographiques, donc qui ont fait émerger des œuvres? Tout à l'heure, tu parlais de ta relation avec la forêt, par exemple, ou est-ce que c'est aussi des choses qui remontent à ton enfance aussi, ou au contraire des rencontres, comme tu l'as raconté tout à l'heure?
J'ai grandi en ville. Une petite ville, certes, mais quand même en ville. En même temps, il y avait une espèce de proximité avec le monde animal qui, je pense, a été tissé par ma famille. On passait tous nos étés, c'est-à-dire que nous, les vacances, c'était vraiment à 50 km de là où on grandissait, donc il n'y avait pas d'exotisme vraiment. Vraiment, par contre, on était au fond de la campagne et n'importe quel petit oiseau tombé du nid était sauvé. Je me souviens même qu'on a trouvé un pigeon voyageur, donc c'était marrant, on le lâchait le matin, il revenait le soir, c'était très chouette. Et ça, c'était vraiment quelque chose de familial. On était tous les quatre à sauver le petit oiseau, à sauver le petit chat, le petit chien, le petit lapin. Et puis à parcourir la campagne qui est pas incroyable, mais qui fait qu'il y a une espèce de liberté et de rapport aussi à une nature qui est certes qui est pas du tout une nature sauvage, hein, c'était pas le Vercors, c'était le Nord-Pas-de-Calais, donc il y a des champs, il y a des vaches, enfin voilà, c'est pas du tout quand je vois la Drôme, là où a grandi mon compagnon, c'est pas du tout le même genre de nature, mais en même temps je pense que c'est quelque chose qui est devenu très important pour moi, ce rapport à la naturalité. Et quand après j'ai commencé à créer des choses, c'est vers ça que je me suis tournée. Tout d'abord, c'était notre rapport au sauvage. Et pourquoi, en fait, pourquoi ça nous fascine? Pourquoi on a fait des zoos? Pourquoi on a recréé des décors pour avoir l'impression des dioramas, pour avoir l'impression de voir tout le temps l'animal sauvage? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin comme ça de le voir et qu'on est fasciné à sa vue? moi la première d'ailleurs. Et puis, moi, je voyais aussi comme quelque chose d'un peu douloureux, c'est-à-dire de pas y avoir accès, en fait, ce monde-là. Et du coup, pour compenser cette douleur, d'essayer de y avoir accès de manière artificielle. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, à créer des choses. Et en fait, petit à petit, je me suis posé la question aussi sur... parce que je suis sans cesse en train de me remettre en question. Et si je parle de nature sauvage, à quel moment je parle de l'humaine que je suis. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aux survivalistes qui, eux, apprennent à faire un feu, apprennent à construire une cabane à partir de rien. Donc, il y avait quelque chose de très romantique et à la fois qui allait aussi avec cette idée de nature sauvage, très, voilà, d'être le nouveau Noé ou Adam, si on veut dire, voilà, parce que c'est très masculin comme milieu. Et c'était aussi pour dire notre fragilité, enfin voilà.
Voilà, une question qui me revient très souvent, c'est le rapport à l'intime, donc entre la personne que tu es et puis ce que tu vas produire ensuite au bout du compte, quels sont les éléments qui peuvent te remonter. Et donc par exemple une question très, très intime, donc tu disais tout à l'heure que tu es mère, que tu as une petite fille, et donc est-ce que toi ça a modifié des choses évidemment dans ta vie de femme et dans ta vie d'artiste?
Alors bien sûr ça modifie de toute façon pour tout le monde, ça modifie quelque chose parce que c'est très impressionnant tout d'un coup d'être mère. J'avoue que j'ai eu très peur en fait, d'ailleurs ça a été longtemps des discussions avec mon compagnon, parce que j'avais peur de disparaître dans le milieu de l'art.
En tant que femme artiste,
j'avais...
Parce que t'avais un enfant.
Oui, j'avais peur de ne plus être disponible pour travailler, et donc qu'on me fasse plus travailler, et donc voilà, que je disparaisse. J'avais peur aussi du cliché de l'homme artiste va continuer et du coup la femme va devoir voilà, bon ça c'est très idiot hein, mais du cliché de il faut bien qu'il y en ait un qui lâche un peu les rênes pour faire tourner un peu une maison avec un petit bébé, puis en plus avec tout ce qu'il y a de les modes de garde qui vont pas ensemble, puisque comme on est artiste on est censé être libre donc on n'a pas tout de suite des modes de garde, des crèches, des choses comme ça, et donc tout ça j'ai eu vraiment très peur. Et alors ce qui est assez drôle, c'est que avec le recul j'ai énormément compensé, c'est-à-dire qu'en étant enceinte j'ai préparé une exposition en Corée, et donc quand j'ai créé des nouvelles choses, d'ailleurs que je serais incapable de créer maintenant, ça me fait marrer, je devais avoir un cerveau spécial à ce moment-là et qui a fait que j'avais moins d'appréhension à créer les choses, c'est marrant, moins de retenue. Et au moment, à peu près le mois où ma fille est née, il y a eu le vernissage en Corée, et donc j'ai fait le vernissage en télé-réalité, j'allais dire, non, en visio, c'est-à-dire que alors c'était hyper drôle parce que en plus les Coréens ça les faisait beaucoup rire de m'avoir à l'autre bout du monde et tout, et j'ai tellement communiqué, c'est que les gens après ils me croisaient enceinte jusqu'au cou et me disaient mais t'étais pas en Corée la semaine dernière, et en fait je me suis dit, mais vraiment j'ai usé des réseaux sociaux au maximum pour dire je fais des choses, alors que j'étais chez moi en train de me dire c'est bientôt que j'accouche ou pas. Mais vraiment, c'est très illustratif de ce que je voulais montrer. Même si je me dis, en fait, j'aurais pu aussi rien faire, c'est pas grave. Mais j'avais tellement. Voilà, c'était pour compenser cette peur.
Mais c'est drôle parce qu'en fait, t'avais peur à l'avance, oui, des injonctions,
exactement,
ou des obligations ou des interdictions qu'on pourrait formuler à l'égard d'une femme,
c'est
enceinte,
ça,
ou d'une femme mère et artiste. Et finalement, est-ce que ça s'est ressenti
Non, finalement, non. Parce que déjà, je n'ai pas un compagnon qui a exigé de moi de rester à la maison. Donc forcément, déjà, ça aide. On a tous les deux continué notre travail. On a fait comme on pouvait, voilà, comme tout le monde fait comme il peut à ce moment-là. Mais je pense que c'est très difficile de tenir la barre. Au-delà de tout, c'est quand même très dur de continuer de travailler. En plus, un travail qui n'est pas rémunérateur vraiment. Donc du coup, on a envie de dire plutôt dormir que de faire des choses qui ne payent pas et qui m'épuisent. Moi, il y a même des gens, une collectionneuse qui est assez militante, qui m'avait dit « Faites attention, les femmes artistes dans les couples d'artistes, quand elles ont un enfant, on ne les voit plus. On n'entend plus parler. » Et donc, ça avait nourri aussi ça.
Bien sûr.
Je pense qu'elle me l'avait dit pour être sympa avec moi, mais du coup, moi, ça m'avait vraiment
inquiétée.
Et j'étais là « Non, c'est mort. Moi, il faut pas, j'ai pas envie qu'on ne me voit plus. » Voilà. D'autant qu'en plus, mon compagnon, il a une carrière qui était très assise. Donc, du coup... peut-être il a pu, j'en sais rien, faudrait lui demander. Peut-être lui il a un peu laissé des choses de côté pour que ça puisse advenir, je sais pas. Voilà.
Et, oui, et donc, comment conciliez-vous justement la vie d'un couple d'artistes, sur le plan tout bêtement économique et puis ensuite sur le plan de la relation au travail? Tout à l'heure, tu disais que c'était formidable quand vous passiez une journée entière à l'atelier.
Oui.
Donc, vous êtes tous les deux tout le temps dans l'atelier. Et apparemment, ça vous procure du plaisir à tous les deux.
Oui. Moi, ce que je trouve chouette qu'on soit tous les deux, le fait qu'on soit tous les deux artistes, c'est qu'on comprend les priorités de chacun. Ce qui, je pense, peut être difficile quand on a en face quelqu'un qui n'est pas artiste, qui doit se dire mais pourquoi tu repars à 23h faire un truc, alors que en vrai. Si les gens font ça, c'est qu'ils ont un super salaire à la fin de du mois, ce qui n'est pas le cas. Donc du coup, je peux comprendre que des gens qui ne soient pas artistes, peuvent. Alors que nous, on sait pourquoi on le fait. Il faut le faire. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et il y a aussi quand on a des doutes, c'est-à-dire que mon compagnon, c'est le premier à qui je vais dire qu'est-ce que t'en penses de ci, et si je fais cette pièce-là. Et puis, alors ça, c'est un truc aussi que j'ai découvert, c'est-à-dire que en termes de, c'est très compliqué à gérer aussi quand l'un de nous doit aller faire un vernissage à l'autre bout de la France, et puis forcément, c'est le moment où l'autre il doit aller faire une résidence dans l'autre bout de la France, et au milieu on a une fille qui va à l'école, et bon, et en fait on est amis avec un couple d'artistes qui travaillent dans le cinéma. Et en fait, on fait corps à quatre.
Ah.
Et je me suis dit, elle est là, la solution. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une nounou. Et donc, de temps en temps, on se dit, tu peux aller la chercher là. Moi, tu peux relever la nounou. Et en vrai, je me dis, il faut quatre adultes, en fait. En tout cas, là, du coup, il y a trois enfants. Mais il y a vraiment ce truc de... on a tous les quatre envie que ça marche pour nous dans notre travail. Et on s'entraide énormément là-dessus.
Ouais, donc ça c'est très intéressant parce que d'abord vous pouvez vous appuyer sur un autre couple.
Oui.
Mais déjà au sein du couple, tu disais qu'il y a aussi une entraide très très forte et que vous pouvez vous appuyer et que même par exemple le fait d'avoir à vous votre propre atelier fait que ça vous donne une force à deux.
Oui, parce que nous on a un atelier logement, mais on a aussi un atelier parce que notre atelier logement, il peut pas avoir des choses avec un enfant, ce serait trop dangereux et pour l'enfant et pour les pièces. Et du coup, on a un atelier qu'on paye tous les deux. Et je sais que si on était seul, on ne pourrait pas avoir ce lieu. Donc il n'est pas très grand, il fait 20 mètres carrés, on marche... c'est compliqué, quoi. Mais en même temps, c'est un lieu... tout à l'heure, je disais un lieu à soi, c'est vraiment le lieu du travail. Et on est content, je vois bien, on ouvre la porte et on est content d'y être parce que c'est là où on va bosser, on va faire des fois, on appelle ça faire un tunnel, parce qu'on est à fond, on fait plein de trucs, etc.
Ouais.
Et ça, nous, on trouve ça très important, parce que l'espace familial, il est à nous. Et c'est compliqué, on a fait des années à travailler dans notre espace, du coup, de couple, parce qu'on n'avait pas d'enfants. Et avant un rendez-vous professionnel, on passait une journée tous les deux à tout bouger, pour que l'atelier soit pas un espace intime, mais un espace de travail. Nous, notre atelier, il a toujours été, bon, ça a toujours été deux bureaux, donc celui de mon compagnon et le mien, avec des ordinateurs, des choses. Celui de Thibaut, très bien rangé, le mien, très mal rangé. Même moi, j'ai des choses par terre et tout, ce qui agace beaucoup. Voilà, beaucoup de gens vivent ça. Par exemple, j'invitais quelqu'un, moi je rangeais parce que je me disais quelqu'un va arriver dans mon atelier. Et puis j'avais beau faire des choses, on voyait toujours que c'était un lieu de vie, donc c'était propre, il y avait un petit fauteuil, enfin voilà, normal. Et ça ressemblait plus à une maison qu'à un atelier, il n'y avait pas ce côté, ça sent pas, là, ça sent jamais, ça n'a jamais senti la térébenthine. Et je voyais physiquement la déception des gens de se dire, bah, je suis pas dans l'entre-deux l'artiste. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup discuté, même avec Thibaut, de se dire, mais les gens attendent qu'on soit généreux. Quand ils arrivent dans l'atelier, ils ont envie d'attraper un petit quelque chose qu'ils auraient pas s'ils avaient pas fait le chemin. Et comment nous, on peut faire ce petit quelque chose sans faire un décor de cinéma, quoi. Et moi, c'est justement en ouvrant mes carnets. J'ai trouvé ça, c'est-à-dire que j'ai des carnets qui sont pleins de recherches, de petits dessins, de tissus teintés avec des recettes et tout. Et j'ai remarqué que quand je les ouvre et que je les montre, je vois cette appétence à aller vouloir fouiller, regarder. Ce que je comprends, hein, moi j'aurais aussi envie de fouiller dans les carnets de mes collègues. Et donc je me dis, voilà, moi c'est ça, c'est comme ça que je le fais. Et je m'épuise plus à tout bouger dans l'atelier avant que quelqu'un arrive. Je l'accueille, voilà, c'est comme c'est. Des fois, je l'appelle l'humble atelier pour que les gens ne s'attendent pas à une grande pièce avec des choses partout. Pour pas qu'il y ait de déception, mais... j'ai un petit jardin d'immeubles que j'ai investi avec des petites plantes tinctoriales, donc j'aime bien faire cette petite promenade, et ça, généralement, les gens aiment bien, parce qu'on est... Ça, je partage des choses, en fait. Mmh. Voilà.
Et alors, est-ce que tu dirais que, instinctivement, les gens qui rentrent dans ton atelier, quand vous êtes tous les deux, donc vous accueillez des gens, ils vont tout de suite comprendre que ici c'est le coin de la femme, ici c'est le coin de l'homme. Parce que tu utilises des tissus, est-ce que tu travailles avec des plantes?
Ah, c'est marrant comme question. Je m'y attendais pas du tout. Alors, moi, je le verrais plutôt comme on reconnaît très bien le bureau de Thibaut Brunet et le bureau de Léa Bourdin. C'est-à-dire que Thibaut, lui, il travaille beaucoup sur des pièces avec des scanners tridimensionnels, donc c'est très technique, et donc ça doit passer par des ordinateurs très puissants pour être calculé, et donc il a deux voire trois écrans, un énorme ordinateur, et donc on voit très bien que c'est son bureau, puisque c'est comme, enfin voilà. Alors que moi, bien sûr, mes tissus, ils sont rangés parce que c'est délicat, mais j'ai un mur avec plein de choses qui vont m'inspirer. Donc ça peut être, j'ai une petite sérigraphie de Françoise Petrovitch, c'est des petites choses que j'aime bien regarder et puis qui me relancent un peu, on va dire. Et donc ça me ressemble beaucoup. C'est-à-dire que ce mur-là, on va tout de suite voir que ça va être chez moi. Donc il n'y a pas de côté féminin ou masculin, mais si on nous connaît tous les deux, il n'y a pas de doute. Voilà, il n'y a vraiment pas de doute.
Et donc, en fait, ma question a été un peu orientée sur justement si ton travail sorti de l'atelier est présenté dans une galerie. Est-ce que systématiquement les gens vont tout de suite comprendre que c'est le travail d'une femme ou je sais pas, genre?
Alors, je me suis jamais posé la question parce que j'ai pas du tout envie de me la poser.
Est-ce qu'on te l'a jamais posé ou est-ce que non. Ça t'a jamais été fait remarquer?
Non, on me l'a jamais posé. On m'a jamais dit c'est le travail d'une femme. J'aime pas trop dire. C'est de l'art féminin ou de l'art masculin, parce que ça pourrait aller vers des choses vraiment très clichés qu'on n'aime pas,
et clivantes,
et voilà, donc, ou simplistes totales. Et en même temps, comme je parle d'un. Comment ? D'envie de préserver, alors on va dire nature pour être simple, d'envie de préserver la nature ou d'envie de préserver des lieux sauvages ou en tout cas d'en parler, on peut assez facilement faire le lien avec les mouvements écoféminismes. Mmh. Donc je pense qu'on peut se dire tiens, est-ce que ce serait pas lié à l'écoféminisme et du coup quelqu'un qui est d'un genre féminin. Mm-hmm. Mais c'est tout ce que je... c'est en faisant une enquête, j'imagine qu'on pourrait dire ça, mais en tout cas moi je dis, enfin je sais pas comment, ça me mettrait mal à l'aise cette question. Mm-hmm. J'essaye de penser à l'exposition Solastalgie, puisqu'il y a une égale part d'artistes masculins et féminins, et à part énoncer des clichés, je vois pas comment on pourrait différencier les deux. Donc je dirais que c'est bien comme ça. Voilà.
Oui, ça veut dire que en fait tu sens que la réception de l'œuvre maintenant, plus généralement, les gens se posent même plus la question est-ce que c'est le travail d'un homme ou d'une femme, ils s'en fichent, ce qui les intéresse c'est le travail lui-même. Et donc, peut-être à ce moment-là, il y a peut-être plus cette prise de conscience de... ça y est, il y a beaucoup de femmes qui sont artistes et c'est intéressant de les montrer. Mais maintenant, peut-être aussi plus une forme de prise de confiance des femmes qui, en effet, se disent « ça m'est complètement égal qu'on puisse penser que mon travail est un travail de femme, d'homme ou de n'importe quoi.
Oui, »
c'est pas ça qui m'importe dans la réception du travail que je vais montrer.
Alors... j'ai l'impression de voir en ce moment l'attention donnée au fait que peut-être on a beaucoup donné de prix à des artistes hommes et qu'on a très facilement mis en avant, peut-être des fois vraiment sans faire exprès, et qu'on fait attention à remettre les choses un petit peu à égalité. Et d'ailleurs, moi-même, dans mes cours, je fais très attention à pas tout de suite montrer trois hommes blancs et d'essayer de diversifier en âge, en genre ou même de pays d'origine. Et donc ça, je suis très contente de ça parce que c'est un effort. Donc c'est chouette qu'il y ait des efforts. Donc faut pas l'enlever, cet effort. En même temps, faut pas faire des, enfin tout de suite dire tiens alors là c'est une œuvre de femme ou pas, enfin parce que c'est ridicule, enfin moi je vois pas l'intérêt, à part si l'artiste a envie vraiment de parler de ça, qu'elle exprime vraiment quelque chose autour de ça. Donc en fait de pas invisibiliser non plus, mais en tout cas moi j'adore ça, enfin c'est très réjouissant de voir que petit à petit, il y a une avancée. Moi, j'ai fait l'école de photo d'Arles. On était 20 élèves, 2 garçons, 18 femmes.
Ah oui.
Et il n'y a pas... Enfin, ça ne s'est pas retrouvé ensuite dans le...
Mais est-ce que ensuite, parmi ces 18 femmes, elles ont toutes fait une belle carrière, elles existent toujours en tant qu'artistes?
Alors, j'ai pas suivi les 18. Par contre, c'est plus facile de suivre. Non, alors ils étaient 3, je pense. C'est plus facile de suivre les hommes, vu qu'ils étaient 3. Ouais. Et si je regarde les 3, en effet, ils ont pas fait une énorme carrière d'artiste. Ils sont sûrement très heureux dans ce qu'ils font, hein, c'est pas par défaut. Donc, il y a quand même eu. Si je compte, il y a 4 femmes qui ont eu des chouettes carrières et puis d'autres qui ont eu envie de faire autre chose. Mm-hmm. Mais c'est quand même, je pense, c'était un moment assez dur. C'était un moment assez dur pour percer, pour... j'ai été diplômée en 2010. Entre 2010 et maintenant, j'ai eu des moments où clairement, je sentais l'inégalité. Voilà. Surtout en ayant un compagnon artiste qui est dans le domaine de l'art imprimé, enfin en l'art visuel, je voyais des fois un petit peu de poids, de mesure. Mais bon, c'est comme partout. Hein.
Oui. Voilà. Oui, mais c'est important de voir que ce déséquilibre, il était perçu dès la sortie de l'école.
Oui, oui, et puis bah, lui aussi, enfin, on en a, c'est, ça a été vraiment un discours, enfin, un dialogue entre nous de voir aussi ça. Et d'ailleurs, il y a un truc aussi, enfin, on analyse vachement ça parce que c'est à la fois, on a remarqué qu'il y avait deux poids, deux mesures, bon, ça c'est évident, mais en même temps, du coup, il y a une peur, en fait, j'ai remarqué, moi, en tout cas, peut-être je dis des idiots aussi, hein, parce que j'ai pas fait une étude sociologique, il y a une peur chez certaines femmes artistes d'être ridicule ou d'être dans le mauvais moment, voilà, et du coup de mettre un coup de pied dans leur carrière avec certaines choses.
Il y a plus d'autocensure du côté des femmes.
Ben, je dirais pas une autocensure, mais en fait, c'est comme quand on regarde les actrices de cinéma. Il y en a une qui fait un faux pas, on la voit plus pendant 5 ans, pendant 10 ans. Et je pense que du coup, il y a cette peur chez les artistes femmes de se dire, est-ce que là, je vais pas faire un faux pas? Et peut-être, il faut que je maîtrise mieux mon truc, donc je vais dire non à ça, puis non à ci. Alors que du coup, comme il n'y a pas cette menace, entre guillemets, chez les artistes hommes, bon, ils y vont, et puis tout se passe bien. Et ça, je pense que c'est aussi dommageable, parce que en fait, il y a des fois des choses où on va dire non, par peur de faire le faux pas, puis de se retrouver dans la mauvaise expo, puis du coup de pas être reprogrammé dans d'autres trucs. Alors que ben, moi, je regarde beaucoup autour de moi, et je vois par exemple Françoise Petrovitch, je la cite beaucoup, mais parce que j'ai besoin d'avoir des gens...
Un modèle ?
Voilà, une sorte de modèle qui est une femme, qui a eu des enfants, un mari, tout, ouais, qui a réussi, et qui est partout, et donc je me dis, c'est vraiment possible. D'autant que ça a été ma prof de gravure, donc en plus, voilà, j'ai une amitié pour elle. Et elle dit oui à tout. C'est-à-dire qu'on l'appelle pour faire des vases, elle fait des vases, on l'appelle aussi, on l'appelle faire des décors de théâtre, elle fait tout.
Elle ne s'inquiète pas de savoir si
elle,
ça va
elle est pas inquiète.
Perturber,
voilà. Elle est sûre d'elle, et forcément, qu'en faisant tout, bah, y a des choses qu'on va moins voir, ou qui passent comme ça, ou que... mais, en fait, c'est comme ça que ça marche aussi. Et c'est très américain aussi, je pense. De pas s'inquiéter, je veux dire, elle a même fait un sac... je crois que c'est Dior ou je sais plus quelle marque, voilà, en France c'est très critiqué.
Oui.
Alors qu'en vrai, ben non, c'est les grands artistes qui font ça. Donc allez hop, c'est pas grave, voilà. Et ça m'apprend beaucoup de dire, il faut dire bon, pas dire oui aux gens qui payent pas beaucoup, enfin voilà, qui méprisent un peu le métier d'artiste, mais faut pas dire non quand on a peur.
Mais il ne faut pas se brider.
Voilà.
Donc, tu cites Françoise Petrovitch, mais est-ce qu'il y a eu d'autres personnes dont tu sens que tu as été aidée, qui ont ouais, jalonné ton parcours et grâce à qui tu as senti que tu pouvais justement faire des choses?
Oui, alors au tout début, vraiment, ça faisait un an que j'avais mon diplôme. Et il y a Étienne Hatt, donc, qui est critique, qui a longtemps été critique dans Art Press. Qui m'avait vu dans une exposition et donc qui m'a vachement soutenue. Et comme c'était quand même quelqu'un d'important dans le milieu, et moi ça m'a fait beaucoup de bien en fait de sentir cette espèce de validation, parce qu'on en a besoin en fait. Et ça m'a poussée, c'est un moment très dur, je trouve, la sortie d'école quand on est artiste, parce que on passe d'un moment où on est très entouré, il y a beaucoup de matériel, à rien du tout. Et donc, du coup, le passage est un peu dur. Et donc, d'avoir été comme ça, avec un regard bienveillant, le premier livre que j'ai... La première monographie que j'ai publiée, ben, c'est lui qui a écrit le texte, enfin, voilà. Ça m'a... Je pense que ça m'a beaucoup soutenue. Et puis, dernièrement, je te parlais de cette résidence à la Villa Glovette. C'est une résidence qui a été montée par, je crois qu'elles sont cinq femmes, Là, le centre d'art, c'est Giulia Turati, qui est une femme de la même génération. Elles ont toutes entre 40 et 50 ans. Et donc, j'étais entourée, en fait, pendant un mois et demi, de ces six femmes qui sont ou pas dans le milieu de l'art. Et c'était très, très bienveillant. Ça m'a beaucoup fait grandir dans cette... Ça faisait très longtemps que j'avais pas créé de nouvelles séries, puisque la précédente, c'était 2020 à peu près. Donc, à peu près 3 ans, j'avais travaillé sur celle-ci. Et là, ça m'a aidé à faire cette pièce avec les tissus parce que j'étais vraiment très entourée, tout le monde était très bienveillant. Et puis, il y avait aussi peu de jugement. Alors, encore une fois, hein, c'est aussi du jugement que moi-même je me donne, mais j'ai demandé à pouvoir emmener ma fille en résidence parce que il y a un moment c'était les vacances scolaires, voilà, j'avais envie de la voir aussi, et c'était tout à fait possible et tout à fait simple, et personne m'a demandé mais comment tu vas travailler, enfin voilà, il y avait un truc comme ça de mais oui bien sûr, et c'est idiot mais ça m'a vraiment mis très à l'aise pour faire ce que j'avais envie de faire, et c'est un très bon souvenir, et du coup je le garde un peu comme modèle.
Bah oui, voilà. Et donc alors, quelles sont tes aspirations actuelles? Quelle est ta recherche actuelle? Tu vas poursuivre sur cette issue?
Eh ben, je pense que ça s'est un peu ressenti puisque en ce moment je pense beaucoup à l'eau. Mmh. Et enfin, ça fait longtemps, hein, mais on avait même à un moment dessiné un projet ensemble avec Thibaut autour de rivières fantômes, etc. Mais voilà, je sais pas trop comment le mettre en place, donc pour le moment j'y pense, je dis des choses, je lis une phrase, je suis un peu frappée par ça. Voilà, je peux dire que ça pour le moment.
Et c'est quoi le rêve d'une exposition pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme possibilité pour une exposition qui te ressemble?
Ah bah c'est marrant parce que... En ce moment, j'ai deux pièces qui sont dans une exposition qui s'appelle Image écologie, qui est à Berlin. Et donc il y a un mur avec mes boîtes à ontotypes et en ouverture de l'exposition et en fermeture le mur avec les tissus qu'on retrouve aussi à Solastalgie. Et donc déjà j'étais hyper fière de faire partie de l'exposition parce que ça parle justement du rapport à la fabrication de l'image tout en parlant de la préservation ou la dénonciation de certaines choses, la préservation de la nature et la dénonciation de certains actes, mais aussi, et ça c'est quelque chose que je mets de plus en plus en avant, et j'étais contente de trouver un dialogue aussi avec les commissaires d'exposition, une idée d'être intègre dans la pratique de l'art. C'est-à-dire que, sans faire de « est-ce que j'ai une empreinte... » Enfin, « quelle est mon empreinte carbone d'artiste ?» Parce que c'est un peu... On n'est pas une entreprise. Mais en même temps, c'est important de se poser les questions. Et donc, il y a eu toute cette discussion de « est-ce que vous avez pensé... à, je sais pas moi, les cadres ou pas. Qu'est-ce qui fait que vous êtes fiers de vous là-dessus ou pas ? Enfin voilà. Et j'aime bien en fait cette idée de où va la réflexion de l'art. Moi, à un moment, j'ai fait beaucoup d'expositions dans les festivals photo européens. Et c'était très très frustrant en termes d'intégrité écologique parce que on prenait l'avion, on allait là-bas, c'était généralement des tirages qui allaient être jetés parce que c'est trop cher à ramener, etc. Donc on prend l'avion, on va là-bas, voilà, les tirages sont jetés à la fin et on revient, et à quoi bon en fait. Et puis aussi dans ces cas-là je fais plus le travail que je suis en train de faire, parce que si je montre des forêts protégées pour ensuite jeter des tirages en prenant l'avion, je suis pas très dans mes baskets, enfin là où je veux être. Et donc je pense qu'une expo rêvée, c'est justement une expo où tout le monde prend en compte ça, même si c'est un peu C'est peut-être un peu naïf hein, de dire ça, mais je sais qu'on peut pas être parfait, mais c'est une expo déjà où on me demande pas de tirer des bâches en plastique parce que il faut faire de la com dehors et ça, c'est moi je peux j'ai du mal quoi. Enfin c'est vraiment difficile. Et aussi ben en fait par exemple l'exposition à la Halle de Centre d'Art, il y a eu beaucoup de budget. Parce que, ben, en fait, le bois, je faisais attention d'où ça venait, le cadre, et je préfère produire une fois très bien, et qu'ensuite la pièce, elle puisse bouger, que plein de fois, mais un peu bof, on sait pas trop. Voilà. Donc, moi, ce serait, enfin, c'est peut-être un peu naïf, mais en tout cas, ce serait comme ça que j'aimerais que les choses soient.
C'est une belle idée.
Merci.
Alors, on va se quitter avec une dernière œuvre qui t'a marqué profondément et qui peut-être est à l'origine de ta décision de devenir artiste ou tout à fait autre chose.
Alors, je peux en dire trois.
Bien sûr.
Parce que je me souviens bien, quand j'étais petite, je voulais être poétesse. Je ne sais pas d'où ça me venait, mais j'avais décidé ça. Et donc, j'ai encore les cahiers, je recopiais des poésies que je trouvais belles. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment les premiers émois artistiques, c'était ça. C'était la poésie, je trouvais ça très beau. Et d'ailleurs, j'avais appris plein de passages de Cyrano de Bergerac, parce que il y avait forcément les alexandrins, c'est très confortable, je trouve, comme musique, c'est très beau. Et donc on peut dire que les premiers émois, ça a été ça, la poésie, et notamment Cyrano de Bergerac. D'ailleurs, ma fille s'appelle Roxane, c'est pas pour rien. Et puis, il y a deux autres choses. En ce moment, il y a une exposition de Gilles Ayot au Centre Pompidou. Et Gilles Ayot, c'est inexplicable, mais il a une façon de peindre l'animal qui me met instantanément les larmes aux yeux. C'est magnifique, c'est plein d'empathie. C'est enfin presque il est un animal, Gilles Ayot, mais il y a quelque chose de vraiment comment dire horizontal entre lui et ses sujets, qui est très très beau. Et d'ailleurs, je pense que des fois j'aime bien me dire si j'avais plein d'argent, quelle est la première œuvre que j'achèterais. Et je pense que c'est une œuvre de lui. Et enfin, j'ai la chance d'avoir une impression d'une gravure de 1850, qui est la première représentation de la forêt vierge du Brésil. Faut savoir qu'à la calcographie du Louvre, ils ont des trésors comme ça. Oui. Et donc ça, c'est une des dernières impressions, parce que maintenant, ils n'impriment plus les plaques d'avant 1850. Elles seraient trop, ça les abîme trop. Et j'adore cette gravure parce que elle a ce foisonnement qu'on peut imaginer dans les forêts vierges, et puis de se dire que c'est une des premières image de la forêt vierge, c'est très beau. Et au milieu, il y a un couple. Alors, il y a une femme avec son enfant, et puis une espèce d'homme en Tarzan qui chasse un petit animal. Et donc, il y a aussi tout ce cliché de l'homme sauvage. Et au milieu, il y a des raies de lumière qui passent à travers les arbres, qui vont de gauche à droite. Et ça a été très inspirant quand j'ai essayé de faire des photos des forêts. Parce que c'est très dur en fait de photographier une forêt, parce qu'on a tous ce sentiment d'être dans un lieu très beau et tout, et la photo c'est très dur de montrer ça. Et donc ça m'a beaucoup aidé de se dire c'est la lumière à travers les arbres qui va nous donner ça. Donc elle m'a énormément inspirée.
Et là, il y a même une rivière.
Et il y a même une rivière au milieu, oui.
Tu vas pouvoir creuser.
Oui.
Et merci beaucoup, Léa Bourdin.
Ben, merci, Isabelle.
Cube Rouge est un podcast diffusé sur Art District Radio sur une proposition d'Isabelle de Maison Rouge, le mercredi et le samedi à 14h, la semaine de la sortie de l'épisode. Retrouvez tous les épisodes de Cube Rouge en podcast sur le site internet de la radio et sur toutes les plateformes d'écoute en suivant le fil des podcasts d'Art District Radio.